pour les préparatifs que tu as donnés à Laurent. Tu lui as mis à cœur de parler en ton nom, et nous te prions pour que nous puissions être réceptifs à ta voix. Amen.
Voilà, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Nous sommes toujours dans quoi ? Dans les actes, n'est-ce pas ? Les actes des apôtres. Et ces apôtres qui ont tant fait pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui doit rester une bonne nouvelle. Si vous avez reçu le message d'annonce pour le fait de lire les chapitres, je l'ai envoyé aujourd'hui. Cette semaine, je n'étais pas en super forme. Donc, j'espère que vous avez pu lire acte 16 et acte 17. Chapitre 16 et 17, j'en ferai tout à l'heure un petit résumé. Enfin, un résumé. Et puis, j'essaierai de tirer quelque chose pour nous ce soir au niveau de notre paroisse. Et donc, dans le message d'annonce, vous avez eu le titre du message, entre guillemets, « Nous ». N-O-U-S. Bizarre, hein, comme titre. Un mot comme ça, nous. Nous. Et vous avez peut-être remarqué que ce nous, il apparaît particulièrement dans Actes chapitre 16. Et c'est ce nous qui fera le thème de cette prédication de ce soir. Merci Gilles pour l'introduction, pour ce qui a été partagé au préalable. Le nous qui fait la différence. Pas eux, pas voilà ce qui se passe, mais le nous qui change parce que le Seigneur, il intervient et il crée quelque chose. Le nous, c'est, si je me souviens bien, c'est un pronom, n'est-ce pas ? Ouais, super, j'ai des souvenirs de français. Le nous, c'est un pronom et la première personne du pluriel et ça signifie un nom, ou plutôt des noms. Et c'est ton nom ce soir, ce nous, c'est ton nom, c'est mon nom. On n'est pas des inconnus aux yeux de Dieu. Et le défi, c'est de ne pas être des inconnus les uns envers les autres. Est-ce qu'on se connaît les uns les autres suffisamment ? Alors peut-être oui, moi je connais, voilà, un tel, une telle, je sais à peu près quel âge il a, ce qu'elle fait, etc. Mais même ça, ça peut être un défi que le Seigneur peut nous lancer. Ce nous, il est opposé au vous. Vous allez dans cette église, par exemple. Et quand on dit nous, ben nous, ça c'est ma famille spirituelle. Ça fait une différence. Hein, vous allez dans cette église, il y a un peu d'esprit hautain comme ça. Mais nous, ça c'est ma famille. Touche pas à ma famille. Quand j'étais jeune, il y avait ces slogans politiques là. Touche pas à mon pote. Vous savez, à l'époque là. Ben, touche pas. Si on avait des badges ou des. Dans les pins, ça n'existe plus, mais. C'est dingue, je parle comme un vieux. Je suis désolé, les jeunes. Vous savez ce que c'est un pins ? Un pins, c'est ce que... Ah, ça va, on est encore sauvés. Touche pas à mon poste, touche pas à mon église, touche pas à ma famille spirituelle. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Parcourons rapidement, avec quelques images, merci Sam, quelques géographies, parce que vous avez vu que Acte 16, 17, comme les chapitres précédents, ça s'incarne dans une région, dans des régions particulière. Vas-y, lance une première image. On verra sur quoi on tombe. Voilà, le monde de l'époque, certainement, que vous reconnaissez ici le territoire d'Israël. Il n'y a pas les noms pour l'instant. L'Égypte avec le Nil, donc c'est un peu vu de satellite comme ça. La mer Rouge, en tout cas les deux bras qui sont par là. Ça doit être Chypre. Ça doit être Malte, la Sardaigne, l'Italie. Comment ? Crète ? Bon, d'accord, vous aurez corrigé pour moi. Par ici, c'est notre Grèce actuelle, c'est juste, hein, avec tout ce chapelet d'îles. Ici, c'est la Turquie actuelle, plus ou moins. La Syrie n'est pas très loin, etc. Voilà. Donc, l'évangile est parti de Jérusalem, c'est peut-être plus ou moins par là. Voilà, Tel Aviv, Jérusalem. Tout ça remonte, ça se répand, la bonne nouvelle se répand. Et Dieu bénit le travail d'annonce de l'évangile. Des fois, c'est un peu au forceps, avec de la persécution, mais Dieu quand même bénit ce travail. Et puis voilà, on arrive au deuxième voyage de l'apôtre Paul, plusieurs voyages dans les Actes des Apôtres. Et là, on est dans ce deuxième voyage. Et le « nous » intervient, j'expliquerai encore un petit peu plus tout à l'heure. Acte 16, verset 10. Pardon, je vais trop vite. Acte 16, verset 10, c'est un verset clé. de ce chapitre 16. Mais en tous les cas, donc, on va, tu peux passer, voilà, on va ici, c'est très bien, Samuel, merci. On va ici d'une région, voilà, d'Herbe, d'une ville d'Herbe, et puis on va aller jusque Actes 16 et 17. On va jusque, et c'est un moment clé pour l'annonce de l'Évangile, jusqu'en Europe. Jusqu'à présent, l'Évangile était entre guillemets confiné au Moyen-Orient ou l'Asie aujourd'hui, Moyen-Orient. Et puis voilà, très bien, on passe en Europe jusqu'à Rome. Après, dans les derniers chapitres, et puis jusqu'à Onet, parce que Onet, c'est acte 29, n'est-ce pas ? On est toujours dans acte 29 aujourd'hui, acte qui contient 28 chapitres. Et ça, c'est génial. On passe en Europe, l'Évangile qui va en Europe. Pour nous, c'est tellement habituel. On a des églises, on a des croix sur nos églises, mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est parti de Jérusalem, puis c'est pas une super grande, c'est pas une mégapole, enfin, oui, ça fourmille Jérusalem, mais il y a des villes beaucoup plus grandes. Zurich, c'est beaucoup plus grand que Jérusalem. Voilà, mais c'est parti de ce petit coin de terre là, du Moyen-Orient, et puis ça va jusqu'en Europe, donc jusqu'en Grèce pour aujourd'hui, en Macédoine et jusqu'à Athènes. De Derbe à Philippe, Paul, qui souhaite travailler en équipe, ou alors qui comprend que c'est important de travailler en équipe, de ne pas être tout seul dans son coin, ou de ne pas être qu'avec Barnabas, il s'adjoint les services de Timothée. Donc Timothée, c'est un jeune homme qui est associé au missionnaire. Paul le prend, et Timothée devient le poulain de l'apôtre. Et ça, c'est génial. Il a une belle vision paternelle, pas paternaliste, mais paternelle, spirituellement parlant, l'apôtre. Qu'est-ce qu'ils font dans ce début de ce deuxième voyage ? Ils vont continuer à promulguer les décisions des apôtres. Je réfère à Actes chapitre 15, et la prédication est sur le site de la paroisse. Ils promulguent les décisions des apôtres. Et puis Actes 16, verset 5, on a une petite conclusion, puis le début de quelque chose. Alors, je vais le lire. Bon, Actes 16, verset 5. Est-ce que quelqu'un l'a déjà avant moi ? Il peut le lire fortement, merci. Voilà, merci. On a une forme de conclusion qui est là, qui lance le deuxième voyage missionnaire comme ça de l'apôtre. Les églises augmentent en nombre et elles se fortifient dans la foi. Donc tout va bien. Elle ne se fortifie pas dans l'esprit des judaïsants, mais elle se fortifie dans la foi et ça progresse. Et on est appelé à se fortifier, nous, dans la foi, en Jésus-Christ, parce qu'on a tout pleinement en lui. Jésus est le centre et l'espérance de notre foi. Acte 16, verset 5. L'évangile passe en Asie, l'Asie mineure de l'époque. Et puis, il y a une série d'épisodes et d'événements qui nous montrent comment l'équipe apostolique est conduite pour évangéliser et comment parfois l'Esprit de Dieu est dit « Non, vous n'allez pas là ». Et il y a deux fois, c'est marqué quelque chose comme « empêché par le Saint-Esprit ». Donc il y a un feu qui est dans les cœurs des chrétiens, là, de cette équipe missionnaire. Et puis non, là, empêché par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a fait ? Bon, on ne sait pas trop. Mais non, Saint-Esprit ne permet pas. N'allez pas là, ce n'est pas le moment. Peut-être les cœurs sont fermés, peut-être vous allez vous faire trucider. N'y allez pas. Donc, il vaut mieux obéir quand c'est comme ça. Hein. À nous de ne pas faire l'économie du Saint-Esprit et de la direction du Saint-Esprit. N'en faites pas l'économie, s'il vous plaît. N'en faisons pas l'économie. Et ça s'obtient, bien sûr, dans un esprit de prière. On peut faire les choses par routine, par habitude. Il y a des bonnes choses par routine, par habitude, mais voilà, empêchées par le Saint-Esprit. Et surtout, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Seigneur, j'aimerais bien témoigner à mon ami. Est-ce que je peux le faire ? Hein, ce copain, cette camarade, ce collègue, empêché par le Saint-Esprit. Hein ? Intéressant, ça. Et puis, quand il y a le feu vert, ben, allons-y. Gaiement. Allons-y. Donc, voilà, on continue. Et il y a cet épisode aussi, vous avez remarqué, Paul, la nuit, il a une vision. Il a une vision, et puis qu'est-ce qu'il voit ? Un Macédonien, exactement. Un habitant de la Macédoine, tu arrives à nous montrer. Donc, c'est, voilà, la Macédonia, Macédoine, ici, on est dans la Grèce, là, voilà. La Macédoine, l'Achaïe, là. Donc, ils sont pas encore en Europe, ils sont par là, je crois. Ils reçoivent une Paul reçoit une vision la nuit. Ah, je vois un Macédonien. Comment tu le reconnais? Ben, il est comme ça, il est typé, il a son accent grec, je sais pas comment il fait. Paul parlait plusieurs langues, peut-être que macédonien. Et ils discutent entre eux. Paul, il n'est pas en train de dire « Ouais, il faut qu'on fonce voir des Romains, parce que j'ai vu un Romain macédonien. » Non, il dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, il conclut que le Seigneur les envoie pour annoncer l'Évangile dans cette région. Fonctionnement en équipe, fonctionnement ensemble. Pas un qui est plus important que l'autre. Ils échangent. Et c'est peut-être Luc dans l'équipe qui dit « Ah, moi j'ai vraiment la conviction de... Et toi, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, moi, j'ai aussi cette même conviction. Et ça, c'est super, de fonctionner en équipe. Il y a beaucoup de joie à travailler ensemble. On avait parlé il y a plusieurs dimanches en arrière. Encore une fois, pas des chrétiens tout seuls, dans son coin, mais en équipe, ensemble, parce que le Seigneur nous unit pour travailler à l'annonce de l'Évangile. On est d'accord avec ça ? C'est super, c'est bien. Je suis content. On va de l'avant. Vision. On continue dans ce texte, vous avez remarqué peut-être une chose qui est bizarre. Les apôtres, ils ont décidé à Jérusalem que pour les églises qui ne sont pas d'origine juive, eh bien, on ne leur impose pas la circoncision et l'observance de la loi, des commandements, etc. Et puis Paul, il fait un truc bizarre, alors qu'il prend Timothée avec lui, il le circoncit. Je dis, mais attends, Paul, t'as compris ou quoi ce qu'ils ont dit les apôtres ? Qu'est-ce que tu fiches ? Tu viens circoncire Timothée ? Alors, Timothée, sa mère était juive, mais son père, il n'était pas juif, il était grec. Paul, tu fais quoi ? Ils ont dit que ce n'était pas obligé de faire ça, puis toi, tu le circoncis. En fait, pourquoi il a fait ça ? Est-ce que Paul n'était pas doué ? Était un idiot ? Il n'a pas compris ? Mais non, il fait ça, et on le voit dans la suite de texte. Il veut prendre avec lui Timothée. Et Timothée, les gens savent, ils savent qu'en partie... il est d'une famille religieuse hybride, un juif et un grec mélangés. Et en fait, Timothée, s'ils apprennent ça, va fermer la porte de l'évangile dans la visite des synagogues des juifs. Donc Paul, il est à quelque part, il dit Timothée, écoute, je te propose, tu te fais circoncire, comme ça on va évangéliser mes frères et sœurs juifs pour qui j'ai une grande compassion, ceux de ma race, comme il dit, ceux de ma famille. On va leur annoncer la bonne nouvelle. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas servir ensemble le peuple juif. Comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Est-ce que peut-être les sœurs qui veulent évangéliser dans des pays musulmans, il faut mettre le foulard ? Peut-être ? Peut-être ? Probablement. Si on ne veut pas se fermer, en tout cas, des cœurs, peut-être il faut faire ça. Peut-être, moi je dis un truc comme ça, je fais exprès, je balance une bombe au milieu de l'église ce soir. Si vous avez à cœur d'évangéliser des bikers, peut-être faudra faire des tatouages. Sinon, ils vont vous dire, c'est qui ce blanc-bec là ? Le mec, il n'est pas de chez nous, hein, dehors, hein. On ne veut pas te voir. Je suis un peu cru peut-être. Mais pourquoi ? Il y a ce principe de l'évangile, 1 Corinthiens 9, je me suis fait tout à tous. Je suis prêt à faire quelque chose de plus, le mille supplémentaire, le kilomètre supplémentaire, pour gagner quelques-uns. Peut-être je suis prêt à... Ah, j'ai vraiment à cœur d'évangéliser dans les milieux estudiantins. J'aurais envie d'arrêter mes études, mais je veux faire un diplôme de plus. Je veux avoir des contacts plus avec d'autres étudiants ou avec des profs, je ne sais pas. Vous voyez l'idée qui est là. Être d'accord de faire le truc de plus qui fera que quelques-uns vont pouvoir obtenir un témoignage de Christ, alors que peut-être, normalement, ils ne l'auraient pas eu. Peut-être, hein ? En tout cas, c'était la mentalité de l'apôtre. Ah, Seigneur, moi, je ne veux pas, je veux être un bon chrétien, je ne veux pas me souiller avec les autres. Mais ce n'est pas les autres qui vont te souiller. Hein ? Le péché, il ne rentre pas comme ça. C'est quand toi, tu le fais, le péché, que ça devient péché. On est d'accord avec ça, ou bien ? Ce n'est pas les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller voir... vous mettre en faillite, enfin, de la foi par rapport à ça. Mais voilà, si Christ vous envoie, il ne faut pas qu'on ait peur par rapport à ça. L'annonce de l'Évangile, c'est la priorité. Ok, c'est peut-être pas mon milieu, mais je veux apprendre, je veux découvrir. Le Seigneur me fait grandir là-dedans. La plupart du temps, le Seigneur, il nous envoie avec ce à quoi on est à l'aise. Puis des fois pas. Des fois pas. Quand ils arrivent en Macédoine, vers Philippe, là, par là-bas, sauf faire de ma part, eh bien, les missionnaires, ils cherchent une synagogue, ils ne trouvent pas. Hein, rappelez-vous la priorité d'aller dans les synagogues pour évangéliser Juifs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au bord d'une rivière. Pourquoi ? Parce que quand les Juifs n'étaient pas assez nombreux pour créer une synagogue, il fallait, je crois, 10 ou 12 hommes masculins, eh bien, ils se réunissaient auprès d'une rivière, de quelques Juifs qui étaient là, et puis le Shabbat, ils rendaient quand même un culte à Dieu. Ils adoraient quand même le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Un Macédonien, viens secours-nous ? Non, ils trouvent des femmes. Ça pose question sur la vision, là. Hein ? Seigneur, tu t'es trompé, tu as montré un Macédonien, un homme, et puis là, on tombe sur des femmes. Bon, on broche chemin, il est où ce Macédonien ? Non, non, c'est là qu'il faut être. Et il faut discuter avec les femmes. Et Paul, il discute. Il n'est pas complexé en disant « Ouh, des femmes, quelle horreur. Moi qui suis juif, je ne dois pas leur serrer la main. » Non, il y va. Et puis Lydie, le Seigneur ouvre son cœur aux paroles de l'apôtre. Peut-être qu'elle était sceptique, je ne sais pas. Mais il y a une ouverture comme ça. Intéressant, hein ? On ouvre, on élargit dans Acte 16. Où est-ce que le Seigneur te donne d'être ? Qu'est-ce qu'il veut élargir dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Où est-ce qu'il veut te placer ? Est-ce que vous dites comme Moïse et d'autres, « Ah Seigneur, surtout pas ?» Alors si vous dites « surtout pas », dans votre cœur, dites « Non Seigneur, je me ravise. Ok, je veux être ton témoin, là où je suis. Allume ce feu en moi, donne-moi suffisamment d'amour pour parler aux femmes qui seront au bord de la rivière. » Puis Lydie, c'est une femme d'affaires. Hein, quand elle est dit qu'elle est marchande de pourpre, ça valait très cher à l'époque. Et puis ça couvrait les vêtements royaux, etc. Donc c'est une femme qui savait gérer son business. Et c'est dans cette... au travers... Elle va être la première pasteur, enfin une des premières pasteurs dans cette église de Philippe, parce qu'elle accueille dans sa maison, non seulement avec sa famille, les missionnaires, mais aussi d'autres personnes qui viendront, et ça devient une église. Donc on en déduit que Lydie est la première femme pasteur là, dans les Actes. Comme quoi le Seigneur, voilà, il prend homme, femme, peu importe, et puis ça, il y a une église qui naît. Et ça, c'est trop bien. Hein. Merci Seigneur. Ça casse bien des concepts. Hein. Peut-être que chez les apôtres, il y a pas mal de choses qui ont dû casser pour que ces choses-là se passent, un petit peu comme nous peut-être. Donc la fondation de l'église de Philippe, elle se poursuit avec l'histoire de la conversion du geôlier. Il faut que je vous raconte ça. À l'école Timothée, il y a un papa d'élève, il est à Chandolon. Il est gardien de prison à Chandolon. Puis le gars, il a le feu quoi, pour Jésus. Hein. Moi, j'aime bien l'écouter. Donc il est venu l'autre jour parler aux élèves avec un autre papa d'élève qui est policier. Puis c'était trop bien. Puis j'imaginais ce geôlier, voilà, gardien de prison, converti, il donne sa vie à Christ et toute sa famille se convertit. C'est bien, c'est génial ça, l'évangile. Moi, ça me passionne de me dire, attends, tel médecin, il peut se convertir, telle personne qui bosse à la mairie va se convertir, peu importe le niveau social, les diplômes et tout ça, les gens peuvent se convertir. Et comme disait un général romain, des premières générations de chrétiens, je ne sais plus comment il s'appelait, il disait, maintenant, nous sommes partout, en parlant du peuple de Dieu. Vers les deuxième, troisième générations là, de chrétiens. Maintenant, on est partout. Il y a des chrétiens partout. C'est beau, ça. Hein, l'évangile a prospéré. Comme une comment on dit, une poudre ? Non. Traînée de poudre. Voilà, merci, Carole. Trop bien. Voilà. Comment il se convertit, ce geôlier ? Vous avez vu, il y a une femme qui court après les apôtres puis qui crie « Ces hommes vous annoncent la voie du salut !» Paul est énervé parce que c'est pas, comment dire, c'est assez bizarre cette histoire, mis à part l'aspect spirituel. Une femme, elle leur court après. On a l'impression que cette femme, elle a vraiment soif de l'évangile. Puis comme elle est possédée d'un esprit de sorcière, enfin c'est une sorcière en fait, hein, spirituellement parlant, je veux dire, elle est possédée par un esprit de python, dit le texte. Eh bien, il y a un mélange qui se fait. Elle est attirée par l'évangile, puis en même temps, elle quitte son boulot. Et puis le démon, à travers elle, dit « Ouais, ces hommes, ils vous annoncent la voie du salut. » J'ai regardé une fois dans le grec ancien, c'est possible que cette femme, elle dise « Ils vous annoncent une voie de salut. » Donc le démon, il sème la confusion, il dit « Ouais, c'est bien ce qu'ils disent, mais il y a d'autres voies pour venir à Dieu. » Voyez, donc il y a un peu un mélange qui est là. Alors Paul est énervé, et puis il prend en larmes du nom de Jésus. C'est génial cette histoire, mais c'est pas tendre quand même. Il chasse l'esprit mauvais et la sorcière se retrouve au chômage. Elle n'arrive plus à donner des oracles qui fait gagner de l'argent à son patron, à ses patrons. Alors ça déclenche une persécution dans l'histoire. C'est fou hein, le mélange qui est là, confrontation de puissance, eh ben, ça risque la persécution. Il y a bien des dizaines d'années, c'était Smith Wigglesworth, un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, avec un très fort caractère. Il est venu à Genève. Je ne sais pas si vous savez cette histoire, le grand homme de foi. Il est venu à Genève, il a annoncé l'évangile, et puis nos autorités n'ont rien trouvé de mieux à faire que l'arrêter puis de le mettre au poste de police. Donc il est venu à Genève, là, arrêté au poste de police. Puis les policiers, qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ils ont entendu l'évangile. Ils étaient embêtés parce qu'ils ont dit, mais Smith, on ne trouve rien à dire contre lui. On l'a arrêté parce qu'il y a eu des plaintes. Et puis c'était, sauf faire de ma part, peut-être la compagnie des pasteurs qui n'était pas très contente d'une annonce de l'évangile. Voilà, ils annoncent l'évangile et puis les policiers font leur enquête. Ils interviewent des témoins et puis il y a un ancien alcoolique qui dit ben, « Smith a prié pour moi, je suis délivré de mon alcool ». Qu'on signe dans les rapports, dans le rapport. Smith Wigglesworth prêchait l'évangile, témoin numéro un, délivré de l'alcool. Qu'est-ce que vous voulez accuser quelqu'un qui est délivré d'alcool, enfin quelqu'un qui a délivré de l'alcool, c'est pas possible. Ils ont relâché Smith Wigglesworth. Mais on l'a quand même arrêté, quoi, le serviteur de Dieu. Attention, attention, hein, si tu annonces l'évangile, c'est possible que. Mais on y va, on fonce. On est d'accord ? On est d'accord. D'accord, avec un petit d'accord. Mais on va de l'avant. Donc le geôlier, Paul et Silas sont en prison. Et puis là, il y a quand même quelque chose de fabuleux, c'est que la nuit, ben, ils ne peuvent pas dormir, ils chantent à Dieu. Et il y a une grâce dans la prison qui se répand à Chandolon. Là, les autres prisonniers, ils se taisent. C'est bizarre. Moi, une prison, j'imagine où ça peut crier, quoi. Quand il y en a qui font du chenille, du bazar, les autres, ils vont... Mais là, les prisonniers, ils entendent les chants. Et peut-être ça leur fait du bien. Et peut-être que le Saint-Esprit descend. Vous savez, quand on chante à Dieu, il y a l'onction qui est là et que les prisonniers ils deviennent sensibles. La grosse burute qui a volé, qui a tué, peut-être qui est là, son cœur s'adoucit. Et puis Dieu, comme il est très puissant, il fait un petit tremblement de terre là. Et puis c'est un tremblement de terre qui va ouvrir les portes de la prison. Mais, c'est fou quand même cette histoire. Des portes. Et il y a une symbolique là, d'ouverture de prison pour ces prisonniers. Moi, je pense qu'il y a une partie des prisonniers, ils sont venus après chez Lydie, dans l'église. Mais ça, c'est moi, le texte ne le dit pas. Mais je peux imaginer des prisonniers qui veulent suivre Paul et Silas. Et puis, ok, Lydie les invite, c'est une grande maison, c'est une femme d'affaires, elle a de quoi les nourrir, les soigner. Et ils s'en occupent comme ça, entre le geôlier et Lydie. Il y a donc une église qui va naître dans des circonstances particulièrement difficiles pour les apôtres, mais Dieu bénit cette annonce de l'évangile. Paul et Silas, après, courtement, ils sont blanchis, donc ils étaient arrêtés comme illégalement. Ils jouent, les deux étaient romains, ils jouent sur leur citoyenneté, mais ils sont blanchis après par les juges. On saute dans Acte 17, on va à Thessalonique. Est-ce que c'est sur la carte, là, Philippe ? Peut-être c'est par là, je ne sais pas. On ne le voit pas. Mais on saute à Thessalonique. Dieu bénisse l'annonce de l'évangile. Il y a quelques juifs qui se convertissent et il y a beaucoup de grecs qui parviennent à la foi. Puis la persécution les rattrape. Encore une fois. Alors, ils fuient les missionnaires. Ils partent à Bérée. La première fois que j'ai lu, quand j'étais tout jeune chrétien, ce texte de Bérée, je pensais à Bérée. Je n'avais pas, depuis longtemps... Depuis pas longtemps, j'avais fini mon armée. Puis je pensais, bah, bref, c'est un truc pour moi. Béret. Et il y a une belle ouverture de cœur de la part des Juifs qui est là. Vous avez remarqué le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut me lire le acte 17, verset 11 ? Sérieux.
Les Juifs, après l'avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile vers l'Astromas. Et le lendemain, vers Néapolis.
Ah, oui, c'est pas tout à fait ça, mais oui, t'es pas loin.
Après, je sais qu'ils ont rencontré les Juifs de Bérée, oui. ils ont lu tout ce qui était dans l'écriture,
oui.
Et ils trouvaient ce que c'était exactement que Paul disait.
C'est ça, exactement.
Merci Carole. C'est ça. Merci. Tout à fait. Ça sert hein, d'avoir une super mémoire. C'est bien. Exactement. Ils ont eu, les Juifs de Béret, ils avaient un cœur plus noble, bien, dans certaines traductions, que ceux de... Un cœur noble. Attends, on nous annonce la parole. On va voir qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ils examinent prédication. Ils scrutent et ils passent au crible de leur Bible. Et ça, c'est magnifique. Les cœurs s'ouvrent. Il y a des conversions en nombre qui sont là. Encore une fois, les missionnaires sont rattrapés par la persécution. Paul doit... il décide de se séparer à un moment donné. Et Paul, il fait le choix, lui... d'aller jusqu'à Athènes, donc il fait un sacré bout. Hein. Là, c'est sur, je vous rappelle, hein, ces chapitres-là, c'est sur plusieurs années. Paul, il arrive à Athènes, voilà, il est en tout cas en partie seul quand il reste à Athènes, mais ce n'est même pas tout à fait prouvé, mais on a l'impression, là, dans le texte, je vais regarder les commentaires, qu'il est quand même seul en partie quand il arrive à Athènes, et il fait dire à Sylvain et Timothée de le rejoindre dès que possible. Qu'est-ce que fait l'apôtre ici ? Alors, on est tout à fait dans la mentalité occidentale, et c'est ça qui est intéressant dans ce texte d'Actes chapitre 17 à Athènes. Il arrive dans cette ville d'Athènes, il en fait le tour, il la visite, peut-être qu'il trépigne, il est un petit peu spirituellement agressé parce qu'il y a beaucoup d'idoles, un peu comme chez nous, quoi. Il y a beaucoup de chenilles comme ça, spirituellement parlant. Il voit un hôtel, et puis... Tellement il y avait des divinités à Athènes, cet hôtel, ils avaient mis une inscription à un dieu inconnu. Et en fait, ça va être le support de sa prédication quand il va aller au congrès des philosophes, l'Aréopage. Eh bien, il y a la possibilité d'annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile aux philosophes qui sont là. Puis l'Aréopage, c'était aussi en partie un tribunal. Donc peut-être qu'il y a des juges qui sont là. En tout cas, il y a des philosophes et le texte est un petit peu rigolo parce qu'il dit que ces philosophes, ils passent que du temps à discuter. C'est quoi ce qui est à la mode en ce moment ? Et puis, on a des philosophes qui sont des stoïciens, nous dit le texte, pardon, et des épicuriens. Alors, pour la petite histoire, ben, c'est notre monde d'aujourd'hui. Les épicuriens, c'est des disciples d'Épicure. Le bien suprême, c'est le plaisir, le fun, quoi. On est dans cette mentalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dit à la mode ? Vous allez sur Twitter et on est dans un monde de médias, de réseaux sociaux où on cherche la dernière des infos, le croustillant, le truc qui est là. On ne veut pas sortir de ça, c'est notre monde d'aujourd'hui. Ben, c'est comme si Paul, il arrivait là-dedans, dans ce monde des réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Et puis, voilà, l'Évangile essaye quand même de se faire un chemin à travers ça. C'est pour ça que moi j'aime bien Actes 17 parce que je trouve que c'est en 2021-2022 que ça se passe. Alors malheureusement, ces épicuriens, ouais, les stoïciens, c'est des disciples de Zénon. Je l'ai lu, hein, je ne le savais pas. Ils placent la vertu. Pardon, je n'arrive pas à relire mes notes. Ouais, l'homme est capable de subir toute souffrance et de résister par lui-même. Donc l'homme est la mesure de toute chose, quelque part, c'est ça. Nous, les stoïciens, on a tout ce qu'il faut en nous, on n'a pas besoin des choses spirituelles et de Dieu. Par nous-mêmes, voilà, on suit cette philosophie-là. Et Paul, il arrive au milieu de ça et il leur annonce la résurrection. Et il leur annonce, il ne parle pas des écrits juifs, mais il leur annonce quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Et puis au bout d'un moment, ces philosophes, ils en ont marre. Il dit, bon, on t'entendra parler de la résurrection une autre fois, on ajourne la réunion, le congrès, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà, on se lasse très vite, c'est notre monde d'aujourd'hui, on se lasse très vite, il faut zapper. Donc voilà, mais il y a quand même quelques conversions. Il y a Denis, Denis est dans la Bible, vous ne le saviez pas, en plus la même orthographe, Denis, D-E-N-Y-S, trop bien, t'as de la chance, hein. Quel bonheur. C'est tes parents ? Tes parents avaient lu le texte ou pas ? Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, Denis, l'aréopagite se convertit, et une certaine Damaris, et puis quelques autres, la personne qui entendent l'évangile et qui sont touchées dans leur cœur et dans leur pensée. La bonne nouvelle qui trouve le chemin des cœurs. Deuxième partie, je vous parle de ce « nous ». Ce qui est frappant dans Actes chapitre 16, c'est ce pronom qui apparaît. J'ai compté parce que j'aime bien de temps en temps un petit peu des stats. Dans Actes chapitre 1 jusqu'au chapitre 15, il y a 73 fois le pronom « nous ». 73 fois. Et puis, en bonne partie, c'est des prédications qui reprennent des versets de l'Ancien Testament, comme ça. Il y a une partie, c'est ça, c'est « nous ». Ce n'est pas tellement le « nous » collectif, quelquefois, mais assez peu. Par contre, dans Actes chapitre 16, il y a 28 fois le mot « nous » qui apparaît. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un changement, un marqueur qui est là. C'est quoi ce « nous » à partir de Acte 16? Alors, c'est tout d'abord le rédacteur des Actes des Apôtres, c'est Luc, qui se joint à l'équipe de missionnaires. Jusqu'à présent, il racontait ce qu'on lui avait dit. Puis Acte 16, son cœur est touché, il se joint à l'équipe. Donc, il y a Luc, il y a Paul, il y a Silas, il y a Timothée et les autres, qu'on ne sait pas, qui se rajouteront petit à petit. Donc c'est un, le rédacteur. Ce « nous », c'est qui? C'est toute l'Église qui commence à se constituer en famille spirituelle hors du monde juif. Et ça, c'est trop beau. Ce « nous », c'est les frères, c'est les apôtres, c'est les futurs frères et sœurs de Macédoine. Ce « nous », c'est les femmes qui sont réunies au bord de la rivière. C'est Lydie qui fait partie du groupe. C'est sa famille qui se fait aussi baptiser. Sa maison, c'est peut-être la sorcière, la pythonesse. Enfin, peut-être qu'elle a dû changer de nom après coup. J'espère qu'elle s'est fait baptiser, cette femme. C'est le gardien de la prison. C'est sa famille, ce « nous ». C'est l'Église qui commence à se réunir chez Lydie. C'est les frères et sœurs de Thessalonique. C'est ces femmes importantes, nous dit le texte, la High Society, là, qui se convertit, les femmes d'influence, c'est Jason, c'est quelques frères, c'est les Juifs dont le cœur est noble, dont le cœur sont nobles au niveau du Seigneur, c'est ces élites à Béret qui sont touchées. Ce « nous », c'est Paul qui rencontre les quelques philosophes, c'est Denis, c'est Damaris, c'est d'autres avec eux. Ce « nous », aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. C'est ce acte 16. Nous sommes une famille spirituelle. 1 Corinthiens 12 nous dit « Vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. » Pourquoi on est baptisé du Saint-Esprit? Ouais, pour parler en langue, pour prophétiser, pour imposer les mains aux malades, pour chasser les démons. Mais ça, on le fait, Seigneur. On est d'accord, bien. On rentre là-dedans. Plus encore. Mais pour, dit le texte, pour former un seul corps. Alors, il y en a qui disent, je me moque un peu, mais je fais exprès, « Ouais, moi, je fais partie de l'Église universelle, de tous les temps, de toutes les générations, jusqu'au retour du Seigneur. J'en fais partie. C'est bien. Et alors ? Ça change quoi dans ta vie d'Église ? Oh, ben rien, spécial. Je vais à Pâques et à Noël à l'Église. Non. Mais ce « nous », quand il s'incarne, quand tu reçois ce baptême de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit inocule, je m'excuse de l'image du vaccin, il inocule une nouvelle ADN qui fait que tu fais partie d'un corps, du corps de Christ au niveau local, ici, là. Est-ce que tu t'es laissé baptiser du Saint-Esprit et tu te dis « ouais, moi je fais partie de ce « nous » qui est là, mon ADN, elle est là ». Jésus, qui est toujours très clair quand il parle de son Père, il dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. » Et il dit ça parce qu'il y en a des, ils faisaient partie des disciples, mais leur cœur, ils ne faisaient pas partie des disciples qui suivaient Jésus. Ils suivaient parce qu'ils étaient peut-être intéressés par les miracles, par le pain multiplié, etc. Mais leur cœur, il n'était pas. Puis Jésus, il dit bah, « Ils sont partis, mais voilà, ils les laissent partir. Ils n'ont pas été plantés par mon Père dans la bonne terre comme ça. » Ou alors, ils ne se sont pas laissés planter. Hein. Peut-être le Père, il voulait, mais eux, ils n'ont pas voulu. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? On peut bien faire partie de l'Église universelle comme ça, mais cette Église, elle s'incarne dans quelque chose, dans un corps de Christ où toi, tu as ta place. Où toi, tu as ta place. Je vous invite à faire un test PCR. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça y est, il vire. Complot, anti-complot. Non, test PCR pour que Christ règne. Pour que Christ règne. Ce test PCR, il vous dit si vous êtes malade ou pas. Il révèle si vous avez réussi à être inoculé par l'ADN de Christ et à faire partie de son corps au niveau local. Quand est-ce qu'on sait qu'on est guéri et qu'on peut faire partie d'un corps local comme ça ? Eh bien, c'est quand on estime qu'on est responsable d'une famille spirituelle, on est responsable les uns des autres. Je viens à l'église et je suis responsable de mes frères, de mes sœurs. Comment ils vont ? Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu vis en ce moment ? Ça, c'est le test spécial qui vous montre que vous êtes guéri. Quand on n'est pas vraiment guéri, ou quand on n'a pas pris l'ADN de Christ, vous voyez l'image, elle est limitée, mais elle veut te dire quelque chose un petit peu, eh bien, on est sur les pattes arrière. On est sur la défensive. Où je viens à l'église, je ne veux surtout pas qu'on me dise quelque chose. Voyez, je viens parce que j'aime Dieu, et c'est déjà pas mal. J'apporte un peu mon offrande, mais je ne veux pas m'investir dans les relations. Je n'ai pas envie. J'ai trop souffert. Seigneur, je fais ça, mais pas plus. Tu ne m'en demandes pas plus. Tout ça, ça révèle quelque chose. Une nécessité d'ouvrir son cœur à la présence de Dieu et aux frères et sœurs. Ouais, mais ils sont différents. Ben oui, on est obligé. Il y a des Lydies, il y a des geôliers. Je ne sais pas si Lydie et les geôliers, ils se sont entendus comme il faut. Peut-être au début, ils disaient, ouais, toi, t'es avec les grosses brutes, moi, je suis dans les affaires. Apparemment, rien de commun. Mais quand il y a l'ADN de Christ qui est là, le Saint-Esprit, il met un lien entre nous. Ça s'appelle le lien de la paix. Je peux être ami en Christ avec quelqu'un qui est vraiment différent de moi. Et ça, c'est top, hein. C'est top, peut-être pas au début, mais ça doit le devenir. Au point que mon frère, ma sœur, qui est tellement différent de moi, j'ai envie de la protéger ou de le protéger par mes prières. J'ai envie de m'intéresser à elle, etc. Alors parfois, certains, ils n'arrivent pas à s'intégrer parce que par nature, ce n'est pas des extravertis et ils ne recherchent pas le contact. Ce n'est pas un souci. Le Seigneur, tu peux donner ta nature au Seigneur. Et moi, j'en suis une preuve vivante. Vous prenez mes deux autres frères, puis moi. Puis moi, j'avais l'impression des fois d'être une pièce rapportée, quoi. Quand je vois mon frère aîné, il est super à l'aise dans le contact. Il est leader, il est pionnier dans beaucoup de trucs. Il a fait des trucs que jamais personne dans la famille n'a fait. Et donc, il rassemblait autour de lui. C'était le premier qui avait les copines de classe. Enfin, vous voyez le genre un peu. Un petit peu grande gueule, etc. C'est mon frère, je l'aime beaucoup. Il est comme ça. Puis mon deuxième frère, il est brillant, mais il n'avait pas assez de confiance en lui. Et il est vraiment brillant, Fred. Mais voilà, mais très différent. Et puis moi, j'étais par nature le mec dans ma grotte. Alors j'espère que ça va mieux de ce côté-là, par nature. Mais le Seigneur m'a quand même pris. Puis il m'a quand même appelé au ministère. Je t'ai demandé plusieurs fois la question, pourquoi ? Mais voilà, des fois, il y a des silences comme ça qu'il faut observer. Et il nous façonne, même si on est très différents les uns des autres. Pourquoi ? Pour former le corps de Christ. Pour former le corps de Christ. Ce que je rencontre en tant que pasteur, parfois, c'est des frères et sœurs ou des brebis qui ne souhaitent pas vraiment être intégrés au troupeau de Christ local. Ils ne souhaitent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est des fois parce qu'ils ne peuvent pas. Et ça ferait remonter trop de blessures. Dans mon autre église, ça s'est mal passé. Alors je viens ici ou ailleurs, enfin je parle en général. Voilà, mais ça s'est mal passé. Mais je ne veux pas que, vous voyez, on a des blocages comme ça ou des défenses. Et si ces défenses, tu les amenais à la croix ? Et si on faisait tous ensemble le pas, ce soir, de dire, ok, Seigneur, peut-être tu veux que je fasse un pas de plus dans le sens des relations. Je suis d'accord, mais il faut que tu m'aides. Parce que par nature, je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie de partir tout de suite à 18h30 et filer droit à la maison. Voilà, c'est toujours comme ça, vous avez remarqué, à la fin des cultes, il y en a qui aiment rester jusqu'à la dernière minute. Et puis d'autres, ben, voilà, on est différents les uns des autres. Mais peut-être il y a un pas de plus. Il y a quelques temps en arrière, avant Covid, il y avait Emmanuel qui les avait mis au défi de prendre 5 minutes à la fin des cultes pour discuter avec une personne qu'on connaissait pas ou pas assez. C'était un bon défi, hein, ça marchait bien à ce moment-là. Puis le Covid est un peu passé par là, donc voilà. On a ce défi supplémentaire. Mais ma conviction ce soir, elle est là, c'est que le Seigneur veut nous faire grandir dans ses relations entre nous. Et que nos blessures ou nos craintes ou nos réticences, on puisse les lui apporter. Et je pensais encore ce soir dans la louange à la croix. Si vous regardez la croix que nous avons ici, elle est bien propre. Je ne sais pas si la femme de ménage la nettoie souvent, mais elle est quand même propre. Mais la croix de Jésus à Golgotha, c'était immonde. C'est un lieu quand même de torture, de barbarie, le sang coulait. C'était boucherie, quoi. Et c'était un lieu maudit pour les Juifs. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc spirituellement, c'était crasseux. Et en plus, physiquement, ça devait être crasseux, quoi. Je ne vois pas les gens nettoyer cet endroit-là. On crucifiait, et puis ça se faisait des fois à la chaîne. Et si tu amenais au pied de cette croix tout ton bazar, s'il y en a, tout ton sac, toute la saleté, tout ce chenille qui est là, qui peut-être nous bloque dans nos relations, qui empêche voilà, de nous livrer peut-être les uns aux autres parce qu'on a eu la confiance qui était trahie, parce que voilà, dans notre esprit, ça coince encore un petit peu. Moi, je crois ce soir que le Saint-Esprit, il a quelque chose à déposer dans nos cœurs, une paix profonde, une grâce toute spéciale. Quand je suis allé la première fois à Beyrouth, une des choses que le pasteur Saïd m'avait dit, c'est que le Seigneur a touché son cœur profondément. Il est de Beyrouth, il avait un nom, Saïd Dib. Il était un leader dans l'armée. Vous savez, quand il y a eu les conflits, guerre civile et autres, sa famille était leader, ils étaient enfin, gradés, etc. Son père était chef, était voilà, parmi les leaders militaires, etc. Donc il était connu. Et puis il y avait cette fierté qui était là, non seulement le grade, mais la fierté. Il se convertit et son cœur, il était toujours plein de fierté avec son nom, mais le Seigneur l'a touché en profondeur. Et quand il a commencé à avoir la guerre en Syrie avec les réfugiés, il a fallu accueillir des réfugiés. Le Liban s'est ouvert, ils ont fait des camps, etc. C'était une politique aussi remarquable d'accueil de réfugiés. Et puis le Seigneur a touché son cœur à lui. Il lui a donné de l'amour pour ceux qui venaient de Syrie, les Syriens, etc., pour les accueillir. Et dans l'église, quand je suis allé là-bas, le bâtiment est un peu similaire à ça, un peu plus en longueur. Eh bien, une bonne partie, c'est des réfugiés qui viennent de Syrie, quand j'y étais. Le Seigneur a touché son cœur et ça s'est élargi comme ça. Ça s'est élargi. Moi, je vous propose de laisser le Seigneur élargir notre cœur. Puis quand je dis ça, je juge vraiment personne, quoi. Je regarde mon cœur, il a besoin d'être élargi à tous et à toutes. On a besoin d'accueillir. Elles sont où ? Je lance comme un défi, mais elles sont où les anciennes sorcières au milieu de nous ? Ils sont où les geôliers, les chefs de Chandelon, tout ça ? Ils sont où au milieu de l'Église, hein ? Je dis en général, ils sont où les anciens musulmans ? Ils sont où les habitants de la Cité Nouvelle ? Il y en a. Ils sont où ? Voilà, tous pour que le Seigneur puisse les accueillir. À nous d'ouvrir notre cœur. Il y a peut-être deux conditions principales pour que l'Évangile progresse dans Acte 16, et je finis avec ça. C'est un, que les messagers soient ouverts de cœur. Paul, il va au bord de la rivière, il chasse l'esprit de la pythonesse, il va en prison. Alors voilà, c'est un cas louable. Et puis l'autre condition, c'est que le cœur s'ouvre. Ce qui n'est pas passé à l'aéropage, ils ont fermé leur cœur, ces philosophes, ils n'étaient pas ouverts. On peut dire, ouais, mais s'il y avait du combat spirituel, moi je ne pense pas. Il y avait la philosophie, il y a une vraie recherche des fois de la vérité qui est là. Hein. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ferme la parenthèse, mais je crois que c'est bien si on peut laisser le Seigneur toucher notre cœur ce soir, en profondeur. Et puis après la prière, je vais laisser Gilles gérer le truc. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce texte, Seigneur, qui nous montre comment cette bonne nouvelle, elle a pu rejoindre des gens qui étaient d'Amaris, on ne sait pas trop, mais c'est elle, c'est nous, c'est nos amis, nos familles, nos proches. Qui est ce, ce gardien de prison, c'est nos proches aussi, nos amis, nos voisins. Seigneur, je te présente mon cœur, je te présente l'état de mon cœur. Et Seigneur, je prie pour que tu nous aides à ouvrir nos pensées, nos cœurs, et à les élargir. Je prie que ton Saint-Esprit vraiment approfondisse cette réalité de l'Évangile qui est pour tous, pour petits et grands. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à ce jour, dans notre paroisse. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui, et certainement j'en fais partie encore, qui ont besoin que tu inocules cet ADN spirituel de ce que tu fais ici, pour qu'on puisse intégrer ce « nous ». Nous annonçons l'Évangile, nous travaillons ensemble. Dans cette période de Noël qui s'approche, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait, quelque chose qui se passe, Seigneur, en profondeur, encore dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour chacun qui est là. Merci pour la richesse qu'il représente, ses dons, ses talents, ses capacités, pour ce qu'il est, son origine, sa culture. Seigneur, tu nous prends là où on en est, je te remercie. Alléluia, merci pour ton amour. Alléluia. Un des ministères du Saint-Esprit, je crois, c'est de répandre l'amour de Christ dans nos cœurs. Romains 5, 5 qui le dit. L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous invite à accueillir le Saint-Esprit simplement, pleinement. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. J'ai l'impression qu'il y a une personne ce soir qui est comme l'apôtre et comme enfin les apôtres là, qui étaient comme Silas et Timothée avec les entraves, les fers aux pieds dans le texte d'Acte 16. Et en fait il me semble que cette personne, elle est limitée, bloquée dans ses mouvements même. Puis c'est comme physiquement, elle est bloquée dans ses mouvements. Mais je vois que le Seigneur entend lui donner une mobilité qui est nouvelle. Et puis ça va correspondre à un élargissement de cœur d'abord, un élargissement de cœur de cette personne. Et alors que le Seigneur va élargir, bien ça va briser ce qui retient. Physiquement, il y aura une guérison, un assouplissement, il y a quelque chose qui va se passer, une guérison de cœur et une douceur, une vraie douceur qui sera là, de la part du Seigneur, et qui va guérir. Le Seigneur va mettre son huile, une huile de guérison. Et je vois vraiment, voilà, cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais qui va être guérie, il y a une guérison physique qui va s'opérer. Et qui va élargir son esprit, qui va élargir ses pensées, élargir son cœur. Et elle va marcher, elle va réapprendre à marcher, à voir. Il y a vraiment voilà, comme une révolution qui va se passer, ou une évolution, je ne sais pas, dans la vie de cette personne. Alléluia. Merci Seigneur.
Oui, Seigneur, nous mettons nos mains ouvertes devant toi. Seigneur, notre cœur est si resserré encore. Nous te prions vraiment de l'élargir. Que tu nous accordes cette force de pardonner tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui font que les relations sont compliquées, peut-être qu'on a de la peine à nous approcher les uns des autres. Seigneur, nous décidons devant toi de pardonner. De pardonner même ceux qui sont impardonnables. Que tu révèles également tout ce qui a été oublié, enfoui, et que nous prétendons avoir pardonné alors que ce n'est pas le cas. Seigneur, merci de venir guérir toutes les blessures émotionnelles par ton huile guérissante, Saint-Esprit. Viens dans nos cœurs et révèle-nous encore là où tu veux nous toucher. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, les annonces habituelles. Lundi 18h30, 19h30, tous ceux qui ont besoin de la prière, bienvenue. On prie pour vous par téléphone, par WhatsApp, vidéo, enfin, on fait au mieux. Des fois, c'est Zoom, quand ça marche. Voilà. Sinon, réunion de prière le jeudi à 19h, dimanche prochain, 17h. Alors, dans cette réunion de 17h, quelque chose de spécial, il y aura la soupe de l'escalade. Alors, merci Patrick, je crois que c'est toi qui prépares, c'est juste? Super. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'était marqué amenez vos bols. Alors, est-ce qu'on doit amener nos bols? Ou on prend des trucs en plastique? Vas-y.
En fait, non, c'était pas clair, mais il y avait une suggestion en fait de pouvoir pour qu'on mange la soupe que chacun amène son bol et ses couverts s'il veut. Mais à moins que vous préfériez les plastiques et puis après on jette tout, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ok. Et sa cuillère, d'accord. On fait comme ça, donc prenez un bol chez vous. Patrick, merci. Et puis on va aussi casser la marmite. Donc la plus jeune ou le plus jeune et le plus ancien, préparez-vous à nous opposer aux ennemis de la République.
Donc on va aussi prendre des bols pour ceux qui ont oublié leur bol. Donc voilà. Nous aurons aussi la présentation de Rachel Joly. Donc super, ça sera dimanche prochain. Sinon, dimanche 19 décembre, nous avons une fête de Noël. Il semble que les flyers viendront, en tout cas, il faudra s'inscrire. Voilà, on va se préparer à tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je crois qu'Elisabeth avait quelque chose à dire.